Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est amusant que nous recevions Tony Yoka aujourd'hui alors que je suis en train de finir de lire le livre épatant de George Plimpton, Shadowbox. George Plimpton était un journaliste et essayiste et un sportif amateur éclairé qui entreprit un jour de monter sur un ring de boxe pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un boxeur au moment d'un combat. Et n'hésita pas à défier le champion du monde mi-lourd de l'époque, Archie Moore, pour une exhibition en 3 rounds alors qu'il n'avait jamais chaussé les gants. Expression qui m'a toujours semblé mystérieuse étant donné qu'on a plus naturellement tendance à chausser des chaussures que des gants et qu'en tout cas je n'ai jamais vu de boxeur s'expliquer avec des pompes à la place des gants, ce qui n'empêche pas chacun d'avoir sa botte secrète. Pas plus qu'on ne fait des pompes avec des gants, ou alors ça s'appelle des squats, plaisanterie à l'usage de tous les sportifs qui nous écoutent alors qu'il ferait mieux de s'entraîner. Ces bandes de feignasses, tu crois quoi, qu'elles tombent toutes seules les médailles? Enfin bon, tout ça pour dire que je ne pousserai pas la conscience professionnelle pour faire le même genre de proposition à Tony Yoka. D'abord parce que je n'ai pas envie de me faire démonter la gueule, j'ai atteint un âge où l'on songe plutôt à se la faire remonter, et que justement, puisqu'on parle d'âge, je pourrais être le père de Tony. Et depuis quand, je vous le demande, un père tape-t-il sur son fils, hein? Ceci dit, lisez Shadowbox, c'est un pur délice, comme l'heure que nous allons passer avec ce boxeur exceptionnel qu'est Tony Yoka.
France Inter. Popopop. Antoine de Paune.
Bonjour Tony Yoka, bienvenue sur le ring de Popopop. Quand vous entendez ce son-là, cette petite cloche qu'on vient d'entendre, ça veut dire quoi? Que vous êtes prêt pour le combat?
Bah, quand t'entends ça, c'est que c'est parti en fait.
C'est parti.
C'est parti. Il n'y a plus de retour en arrière.
Exactement. Ben, comme dans cette émission. Donc c'est parti. Il n'y a pas de retour en arrière. À ma gauche, ma sparring partner. J'espère que son casque de protection qui lui comprime bien les joues ne va pas trop l'empêcher de parler. Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Paul.
Au menu également de Popopop pour débrief la Fashion Week avec Loïc Prigent. Ce sera tout à l'heure. Mais avant ça, Tony Yoka, il est ici. Il existe une question que je vous pose en face-à-face avec la même tension qu'au moment des face-à-face de la pesée entre deux boxeurs. Et cette question, c'est... Tony Yoka, pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses tonitives, yokailleuses et même protège-dantesques. Et parmi mes préférées, il y a celle de Mathieu Kassovitz, qui a tourné le cultissime La Haine à Chanteloup-les-Vignes, où vous avez intégré votre premier club de boxe. Écoutez...
Je pense que la pop culture est la culture de la rue qui prend sa véritable, qui devient pop quand elle est reconnue par les médias et qui la transmettent et la rendent mainstream et universelle. C'était pas tout à fait élégant, mais c'était un petit peu, c'est ce que je pense que c'est.
Voilà pour Mathieu Kassovitz. Et pour vous, Tony, qu'est-ce que c'est alors cette pop culture?
Quand j'entends le mot pop, à chaque fois, ça me fait penser à cette période assez folle des années, je sais pas, 70, 80, où tu avais vraiment des big stars. Même si aujourd'hui, tu as des stars de cinéma, tu as des stars de musique, mais je trouve que c'est pas la même ferveur, en tout cas de la part des fans qui étaient à cette époque-là. Enfin, c'était juste huge, tu vois. C'était un truc. Et quand j'entends pop, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à cette période-là. C'est ce genre de stars-là, les rockstars, Prince, Michael Jackson, etc.
Des gens moins accessibles aussi qu'aujourd'hui.
Beaucoup moins accessibles. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on est devenu super proche en fait des que ce soit des athlètes ou des chanteurs, des acteurs. On peut rentrer s'immiscer dans leur quotidien, alors qu'à cette époque-là c'était quelque chose de juste, en fait, rien que de le voir, même de loin, c'était voilà, c'était considéré comme des dieux vivants, limite.
Donc il y a une dimension mythologique dans la pop culture.
Exactement, pour moi c'est ça.
Mais vous l'aimez, vous, cette proximité, justement, le fait qu'on puisse vous parler si facilement?
Je préfère être accessible plutôt que d'être perçu comme
Anthéonisé.
Et ça me fait toujours bizarre quand on me parle, quand on me dit, quand on utilise le mot fan. Pour moi, j'ai pas de fan, ça existe pas. J'ai des gens qui me supportent, des supporters, mais fan, pour moi, c'est un mot qui est beaucoup trop fort et qui me fait vraiment penser à cette période là où les gens ils étaient dingues, quoi.
Mais vous pouvez avoir des fans quand même.
J'aime pas trop.
Ou alors des gens qui vous supportent, voilà. Et des supporters aussi, c'est deux, ouais, c'est mieux en fait.
Des supporters, des gens qui apprécient ce que je fais, mais des fans, pour moi, c'est un mot vraiment, ça me fait penser à cette période-là.
Ouais. Alors la boxe, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après You Ain't The Problem, c'est un nouveau morceau de Michael Kiwanuka.
Makes you blind, I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong, if you don't belong, live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the lie, love is the crime, it's you I believe in. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm done, you got to put me on, I know if you come along. Don't hesitate, time heals the pain, you ain't the problem. You are the problem, I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate, time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate, time heals the pain, you ain't the problem.
Kiwanuka, You Ain't The Problem, c'est pas toi le problème, hein, c'est extrait de l'album Kiwanuka, justement. Alors vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un poids lourd de la pop culture. Son prénom, Tony. S'agit-il de Tony Yoka, de Tony Parker, de Tony Montana, de Tony Blair, de Tony DeConi? Réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Tony, c'est votre portrait bien sûr, mais... Et c'est signé Charline.
Ah oui, sportif aujourd'hui, ah bah oui. Ça change. Aujourd'hui, un invité qui fait drôlement plaisir, et je ne dis pas que ça, parce que malgré mon surpoids, ce beau bébé, selon l'expression consacrée pour répéter d'un crochet un de mes robustes mollets, ce qui évidemment il ne fera pas, hein. C'est un gentleman bien élevé, et que ça n'a aucun intérêt, un invité de type poids lourd, et ça nous change, puisque jusqu'ici, cette appellation ne renvoyait qu'à l'humour si délicat des garçons du bureau. Et là, j'entends déjà certains esprits chafouins s'écrier « Oui, c'est bien beau de se faire plaisir, mais le rapport avec la pop culture, ce à quoi je répondrai. Et mon Luc Cage, c'est du poulet, car notre invité a beau déclarer « je ne suis pas un héros », je vois clairement le parallèle avec Luke Cage, le héros Marvel, qui joue des points aussi bien que notre invité, sauf que Luke Cage, ce bouffon, n'a pas deux médailles olympiques et une médaille de champion du monde, lui. Un autre rapport avec notre sujet, bah Stitch, pas l'extraterrestre Disney, Jacob Durand, le cutman de cri des Rocky, désormais au service de notre invité, même si on espère évidemment qu'il n'aura pas à le suturer. Bref, aujourd'hui en studio, un invité pop, performant et quand même un peu costaud.
Pop, performant et quand même un peu costaud. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce n'était donc pas Tony Blair, ni Tony Montana, mais on va en parler dans la séquence qui suit, parce que c'est l'heure de votre pop-list, Tony. Oh. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur « Réparer les femmes, un combat contre la barbarie » des docteurs Denis Mukwege et Guy Bernard Cadière, prix Nobel de la paix 2018. Charline, ce choix ne va-t-il pas à l'encontre de ce préjugé selon lequel les sportifs seraient plutôt lecteurs de Picsou Magazine que de livres profonds?
Un peu mon neveu, l'Est de la République démocratique du Congo est ravagé par des bandes armées qui, pour asservir la population, ont trouvé une arme monstrueuse, le viol et la mutilation des femmes. Dans son hôpital, le docteur Mukwege s'applique depuis quelques années à reconstruire le corps de ces femmes. Et son ami, le docteur Cadière, venu d'Europe, vient lui prêter main forte et ses nouvelles technologies.
Tony Yoka, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît?
Oui. Que deviendra l'amour de Juliette une fois que le cœur de Simon recommencera à battre dans un corps inconnu? Que deviendra tout ce qui emplissait ce cœur, ses affects lentement déposés en strate depuis le premier jour où inoculé ça? Et là, dans un élan d'enthousiasme ou un excès de colère, ses amitiés et ses aversions, ses rancunes, sa véhémence, ses inclinaisons graves et tendres, que deviendront les valves électriques qui creusaient si fort son cœur quand s'avançait la vague?
Bien. Pourquoi avoir choisi ce livre « Réparer les femmes » des docteurs Denis Mukwege et Guy Bernard Cadière?
Pour moi, c'est j'ai beaucoup suivi son histoire. Au docteur Denis Mukwege, il a eu le prix Nobel de la paix il y a pas très longtemps. Mes parents sont originaires de la République démocratique du Congo, donc j'ai une grosse culture africaine et voilà, c'est un sujet qui me touche toujours particulièrement. Mmh. Et ma femme a commandé ce livre, voulait le lire. Moi, j'ai plutôt regardé ce qu'il a fait, ses interventions. Je crois que c'était à l'ONU ou je ne sais plus. Mmh. Et donc, du coup, je me suis mis à le lire avec elle. Et ça fait froid dans le dos, en fait, parce qu'on est tellement... en fait, on est à l'ouest. On est à l'ouest dans notre partie du monde où on est en Occident, même s'il se passe des choses très graves aussi. Mais on n'a pas idée de ce qui peut se passer à quelques heures d'avion d'ici, et je tenais vraiment à parler de ce livre parce que c'est quelque chose qui m'a fortement marqué.
Très bien. Tony, maintenant on va parler d'un autre Tony Montana, car pour le film vous avez choisi Scarface. C'est un film réalisé par Brian De Palma en 84. Charline, un mot?
Oui, Antoine. L'histoire d'un type qui ne connaît pas l'expression enfantine, qui va à la chasse, perd sa place, puisqu'après avoir bénéficié d'une amnistie du gouvernement cubain pour retourner en Floride, eh bien, notre Tony élabore un plan pour éliminer un caïd de la pègre, et prendre la place qu'il occupait sur le marché de la drogue.
Miami. They called it Little Havana.
In this country, you gotta make the money first. Then you get the woman.
Scarface. For one brief moment, the world was his.
I like you, Tony. There is no lying in you.
Al Pacino is Scarface.
Tony Yoka, on parlait de mythologie dans la pop culture en début d'émission. Là, on est en plein dedans avec Scarface, n'est-ce pas?
Ouais, exactement.
C'est à ce Tony-là que vous devez de vous prénommer Tony vous-même?
Exactement.
C'est pas vrai?
Ouais. C'est fou, hein?
Alors expliquez-moi les points communs entre Tony Montana et Tony Yoka.
Mais il n'y en a pas beaucoup, à part que j'ai été une dizaine de fois à Cuba. Mais mon père m'a appelé Tony en référence à ce film. Mm-hmm. Il est fan de Scarface, il connaît toutes les répliques, et franchement, sans mentir, avec lui, j'ai dû le voir au moins 200 fois. Mmh. Au moins.
200 fois.
Au moins 200 fois.
Il y a déjà une différence de gabarit entre Montana et Yoka, si je peux me permettre. N'en déplaise à Al Pacino, pour qui j'ai le plus grand respect, on peut pas dire qu'on soit sur le même format.
Oui, Al Pacino, c'est plus Laurence Bloch, oui. Parle de la coiffure. Et pourquoi ce Tony Montana plutôt qu'un film de boxe, je sais pas, du genre Raging Bull, Million Dollar Baby ou évidemment Ali, le biopic
C'est un film quand même qui t'apprend énormément. Moi, j'ai comme j'ai grandi, quand on grandit, on regarde ce que ses parents regardent à la télé, et donc j'ai forcément énormément regardé Scarface avec mon père. Il connaît toutes les répliques. J'ai beaucoup regardé aussi Le Parrain. C'est des films qui, malgré entre guillemets leur violence et le côté, c'est sympa de regarder un film comme ça. Il y a une histoire derrière, mais ça t'apprend quand même énormément sur le comportement de chacun dans la vie. Et pour moi, c'est des films qui, on en fait plus trop comme ça, parce que aujourd'hui c'est beaucoup plus des films pour divertir plutôt que des films pour t'apprendre exactement ce que c'est que la vie entre guillemets et des trucs qui vont pouvoir te guider.
Je vous sens nostalgique hein, de cette période-là.
Un petit peu, c'est vrai que ce genre de film-là, ça me manque et j'ai envie d'en découvrir des nouveaux, mais il y en a pas. Je kiffe Marvel, hein. Je kiffe, mais t'apprends rien en regardant Avengers, quoi.
Ouais. Bah, attendez à Irishman, le prochain Scorsese.
Oui, ou allez voir ou Ad Astra. Tiens, Ad Astra, vous allez voir. Pour la série, Tony, vous avez choisi Game of Thrones, série créée par David Benioff et D.B. Weiss sur HBO. Charline, pas de boxe hein, dans Game of Thrones, mais de la baston en veux-tu, en voilà, mais pas que, aussi du barbecue dragon, n'est-ce pas ?
Absolument, des familles se battent pour le pouvoir et couchent beaucoup entre eux ou avec d'autres, hein, ils ne sont pas très regardants sur le sujet. Les Lannister sont des salauds, sauf Tyrion. Les Targaryens sont des guerriers, on aime bien les Stark, mais ils ont quand même sacrément la poisse. Il y a aussi l'hiver qui arrive et avec lui une espèce d'armée de zombies, et au milieu de ça, il y a Jon Snow qui, lui, ne sert rien.
Game of Thrones, une série que nous aimons bien résumer comme ça, nous.
Je crois que c'est la bataille des bâtards, tu l'entends.
Ouais, exactement.
C'est un beau résumé, Tony ?
Un très beau résumé, après bon, il n'y a pas que ça quand même.
Non, il y a de la stratégie, c'est ça qui vous plaît ?
Il y a énormément de stratégie. En fait, ce que j'aime, moi, c'est la complexité. Quand tu démarres Game of Thrones, tu te dis « Wow ». C'est pas une simple série qui va te parler de 2-3 personnes dans un univers. En fait, c'est un univers énorme où chaque personne et chaque personnage est lié, mais au départ, ils se côtoient même pas, en fait. Ils sont dans un autre continent. Pour moi, c'était jusqu'aux deux derniers épisodes qui m'ont tué. C'était la meilleure série. En fait, il y avait un potentiel énorme. Donc, c'est un truc qui m'a marqué, que je regarde depuis 2012. Et au final, ils m'ont tué parce que...
Vous n'avez pas aimé la fin.
Ah, ils ont bâclé le truc, franchement, pourri, nul.
Vous êtes plutôt Jon Snow ou comment s'appelait-elle, cette la Reine
Daenerys
des Dragons
Targaryen.
Ouais.
J'étais très Jon Snow jusqu'à la fin.
Ouais,
enfin, je sais pas quand... Après, moi, je sais pas, c'est différent. Quand tu mérites un truc, tu vas jusqu'au bout, quoi.
Bien, terminons Tony Yoka.
Il n'a pas un mental de boxeur, hein,
c'est ça.
Terminons Tony cette pop list, votre pop list avec votre chanson culte et cette chanson, c'est celle-ci.
Mon drapeau est pisse, mais pisse avec justice. Tu me trouveras en face de ceux qui pissent sur la justice. Qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Que je donne ça, à corps et réfléchis, c'est Kerry James ça. Je rappe depuis l'extérieur, pour mon frère à l'intérieur. Je rappe pour ROH, nos ailes, je pleure nos erreurs. Je rappe pour Fren, je rappe pour Fleury. Je rappe pour mon terre, la santé et Bois d'Arcy. Je rappe pour m'apaiser, alors je rappe ma furie. J'entends le public crier, je suis mafia qu'un prix.
Le combat continue de Kerry James avec à la prod de ce morceau DJ Mehdi. C'est un titre qui résume votre état d'esprit ?
C'est un titre que j'écoute tout le temps. Quand je suis en entraînement, avant les combats. C'est la première musique que j'ai appris par cœur. Donc voilà, ça résume vraiment mon adolescence où j'avais besoin de paroles fortes et Kerry James a toujours été un artiste que il savait avoir ses mots pour me toucher moi.
Alors je résume Scarface, Game of Thrones, Kerry James, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
This country, you gotta make the money first. Then you get the woman.
Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça que je donne ça. À quoi et réfléchis, c'est Kerry James ça.
Scarface.
Que deviendra l'amour de Juliette une fois que le cœur de Simon recommencera à battre dans un corps inconnu? Que deviendra tout ce qui emplissait ce cœur?
For one brief moment, the world was his.
Voilà un autre classique, soutenu par la rue, les poings levés, bras tendus, c'est tendu, mais le combat continue.
Un concentré de Tony Yoka, vous venez d'entendre.
Un concentré de Tony Yoka, je trouve qu'il manque quand même un peu de douceur dans tout ça.
Un peu de tendresse dans
Game of Thrones. Game of Thrones, il y en a quand même pas mal hein, pendant les 7 saisons. C'est un peu dur là.
Mais à Tony Yoka, avant de parler de boxe, écoutons un boxeur chanter. Enfin, un boxeur, que dis-je, un boxeur, une légende. Cassius Clay, Stand By Me.
Come and dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me.
Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Échanger une roue.
Salaire, Instagram et couple sont les premiers résultats qui tombent sur Google quand on tape votre nom, Tony Yoka. Mais aujourd'hui, on va parler de boxe. On vient d'entendre Cassius Clay, alias Mohamed Ali, chanter, c'était en 64. Moi, je parlais de légende et je sais que vous vous approfondissez en disant que c'est le premier boxeur à avoir imposé son sens du show. Sans lui, la boxe serait différente aujourd'hui, selon vous ?
Ce serait totalement différent. Ce serait un sport qui serait vu encore comme, je sais pas, la lutte. C'est un sport vraiment où il n'y a pas vraiment de stars. Enfin, c'est un spectacle. Mm-hmm. Depuis que Mohamed Ali est venu, c'est un show et les boxeurs sont au centre de l'attention.
Quand il s'est agi de choisir un sport, quand vous étiez enfant, ça a tout de suite, immédiatement été la boxe ?
Non, pas du tout.
Comment ?
Je suis né dans la boxe, en fait. Mon père était boxeur, oui. Par rapport à Mohamed Ali. Mais je sais pas, il a jamais vraiment voulu que je sois boxeur. Il n'a pas voulu que notre famille soit une famille de boxeurs. Je regardais les combats de boxe avec lui parce qu'il les voyait. Et moi, je voulais faire du basket. J'étais un fan de Allen Iverson quand j'étais petit. Donc voilà, il a essayé de m'inscrire au basket. C'était en janvier, février, je sais plus de quelle année.
Vous avez le gabarit et la morphologie d'un basketteur.
Et quand j'y suis allé, les inscriptions étaient terminées parce qu'en fait, c'était entre septembre et juin. Donc, ils ont dit, écoutez, revenez en septembre et puis on vous donnera une licence. Donc, mon père tenait à ce que je fasse du sport. Donc, il m'a emmené à la boxe. Il m'a dit, écoute, je te mets quelques mois à la salle de boxe et puis tu iras faire du basket après. Et j'en suis jamais reparti.
Oui, parce que ça m'a toujours semblé étrange. Un papa boxeur qui pousse son fils à mettre les gants.
En fait, moi, je disais la même chose jusqu'à ce que je devienne papa. Au début, je me disais non, mes enfants ils feront pas de boxe, etc., etc. Parce que c'est dur. En fait, c'est un sport qui est très dur. C'est un sport où t'es tout seul sur le ring, tu prends des coups. T'as pas envie que tes enfants ils vivent ça. Ouais. Et au final, quand tu traverses certaines périodes de ta vie dans ton sport et que tu regardes ces genres de films, hein, Scarface, Le Parrain, etc., t'apprends pas mal de trucs et tu te dis qu'en fait, la vie elle est dure. Quoi qu'il arrive, que tu sois, tu travailles à la poste ou que tu sois boxeur, la vie elle est dure pour tout le monde. Elle est même plus dure pour certaines personnes. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis un privilégié. Donc, je me dis, si jamais je mets mon enfant dans le basket, le foot, le volley, je suis pas en mesure de l'aider. Je sais pas, je connais pas ce sport-là. S'il fait de la boxe, moi, je peux l'aider. Sa mère, elle peut l'aider. Ses frères, ses cousins, tout le monde, on baigne dedans depuis tout petit. Peu importe qu'il décide de faire de la médecine, un fils de médecin, il aura des notions en médecine, en fait, quoi qu'il arrive. Parce que c'est comme ça, parce qu'il a baigné dedans. Et aujourd'hui, mon fils, il boxe super bien, en fait, tu vois.
Donc, il a quel âge?
Il a 2 ans.
Il boxe à 2 ans.
Il boxe tout le temps.
Il boxe contre qui?
c'est ouf, hein. Et tu te rends compte à quel point, en fait, les enfants, c'est des éponges.
Alors, restons un peu dans la pop culture, parce que celui qui a frappé vraiment la pop culture, c'est lui.
Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça.
Bon, c'est la voix française de Rocky, mais pour vous, Tony, du strict point de vue de la boxe, Rocky, c'est une chèvre. Ça veut dire quoi, qu'il sait pas boxer ?
Non, il sait pas boxer. En fait, les films sur la boxe a toujours été un sport sur lequel on pouvait faire des films. C'est un sport. En fait, il y a énormément de films sur la boxe. Il y a Rocky, il y a le film de Muhammad Ali avec Will Smith.
C'est beau, magnifique. Il y a tous les éléments de la dramaturgie.
Exactement. Mais en termes de technique pure. C'était catastrophique. Tu sais, quand je l'ai revu il y a pas très longtemps, je me suis dit, ah ouais, on part de loin quand même, tu vois, où les moments où il a les bras en bas, il dit, tape-moi, vas-y. Non, ça se passe pas comme ça, en fait. Si je prends un coup, tu vas dormir. Mais Rocky, moi, je les ai vus tous, je sais pas, 20, 30 fois chacun. Ils sont magnifiques en termes de, il est bien fait, le truc, le scénario, ouais, il est super bien monté. J'adore Sylvester Stallone, tu vois, même, rien que sa vie, hein. Quand tu sais que c'est lui qui a écrit les Rocky, c'est lui qui a écrit les Rambo. Ouais.
Non, c'est un auteur.
Il est génial.
Et la technique de Michael B. Jordan dans Creed, elle est meilleure que celle de...
Bien meilleure. Aujourd'hui, franchement, j'étais surpris quand j'ai vu le film. Il s'est entraîné pendant des mois et des mois. Et c'est devenu un boxeur. Tu vois, le mec, aujourd'hui, il sait boxer, vraiment, pour de vrai. Ils ont fait des efforts à ce niveau-là.
Ça veut dire que vous ne vous entraînez pas dans des abattoirs sur des carcasses d'animaux?
Non, pas du tout. C'est vraiment un mythe.
Mais admettons qu'on transpose le Rocky de l'époque sur un vrai ring dans la vraie vie aujourd'hui. Il tient combien de temps face à vous, Stallone?
Ah, il tient pas. Il tient pas du tout, parce que Stallone, déjà, il fait 1m80, même pas. Ouais. Les poids lourds d'aujourd'hui.
Bah, 1m80, même pas, c'est déjà pas mal. C'est pas parce que vous faites 2 mètres.
Bah, les poids lourds aujourd'hui, ils font tous 2 mètres. Hein. On est une génération où c'est. En fait, on le voit pas parce qu'à l'écran, on fait à peu près tous la même taille. Mais vous allez, 30 ans en arrière, à l'époque de Mike Tyson, Mike Tyson, il fait 1m combien? 70? 72?
Il est plus compact.
Petit taureau.
Il faisait à peine 100 kilos. Aujourd'hui, à peine 100 kilos. Mais les mecs du top 10 aujourd'hui, ils font tous 2 mètres, 2 mètres 2, 2 mètres 3, 115 kilos, c'est plus les mêmes gabarits.
Restons d'ailleurs un instant au cinéma. Qui est, à vos yeux, l'acteur qui s'est le plus approché de la boxe véritable entre De Niro, Christian Bale, Kassovitz, ou bien sûr Will Smith, qui a joué dans le biopic de Danny?
Will Smith m'avait vraiment surpris. Je sais pas combien de temps il s'est entraîné. Après, c'est un acteur et le personnage, je kiffe Will Smith, tu vois. Il va vraiment au bout des trucs. Et quand il a joué Muhammad Ali, en fait, t'avais l'impression que c'était lui. Quand tu regardes le film Ali, moi, j'ai vu énormément de reportages sur Ali et t'avais l'impression qu'en fait, c'était lui. Il s'est imprégné de ça. Il y a peu de personnes qui m'ont marqué comme ça dans les films. T'as eu Will Smith sur Muhammad Ali et t'as eu Jamie Foxx sur Ray Charles. Vraiment, c'est des rôles où les mecs, ils ont, on dirait que, voilà, ils sont imprégnés de leur vie pour le retransmettre.
Vous allez voir par principe tous les films sur la boxe?
On va dire que je vais pas forcément les voir au cinéma, mais je vais les voir à un moment donné. Je vais les voir à un moment donné parce que c'est un truc qui m'intéresse.
Bien sûr. Bien, oublions le cinéma et revenons à la vraie vie, autrement dit à la boxe. Nous recevons aujourd'hui un champion, un vrai, hein, pas un acteur qui joue le rôle d'un champion, mais être champion au quotidien, est-ce que c'est pas aussi d'une certaine façon un rôle à jouer?
Oui et non, parce que tu joues ton propre rôle. Hein.
Non, mais parce qu'il y a aussi un sens de la mise en scène dans la boxe. Moi, j'ai super envie de vous demander, est-ce que vous travaillez vos punchlines? Par exemple, quand après avoir battu Walsh en septembre, vous avez déclaré « C'est un peu facile de dire qu'à chaque fois que je mets KO mon adversaire, c'est qu'il n'est pas bon. C'est moi qui suis trop fort et je le dis avec plaisir. » C'est pour le spectacle, tout ça? Ça se travaille, ça...
Je sais pas si... Il y en a qui, je pense, vraiment, étant donné que t'as des showman, hein, bah, il y en a qui doivent le travailler. Moi, pas du tout. Hein. C'est un truc... je dis ce que je pense, en fait. Vous savez, quand je suis rentré des Jeux Olympiques, tout m'est un peu tombé dessus. Je suis devenu une personnalité, entre guillemets. Et donc, voilà, je me suis dit, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il faut que je dise ci, il faut que je dise ça. Et tu te rends compte que quoi qu'il arrive, tu vas être jugé. Et il y a des gens qui vont t'aimer, des gens qui vont pas t'aimer. Donc, au final, je me dis, écoute, tu t'en fous. Dis ce que tu veux. Donc, au moins, ça plaît pas. Et ce sera réel, quoi.
Vous êtes fait tatouer plein de choses, hein, sur les bras, mais notamment cette phrase, la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où l'on est tombé. À quelle occasion avez-vous décidé de faire tatouer ça?
Après les Jeux Olympiques de 2012, à Londres, donc j'ai fait le tatouage directement à Londres. Vous savez, ceux qui se qualifient au JO, t'en as beaucoup qui du coup sont super contents, se font tatouer les anneaux olympiques, etc. etc. Moi, j'ai perdu en fait. J'ai perdu à ces JO-là, même si j'étais très jeune. Ça m'a mis une baffe. Et je voulais un tatouage que je puisse voir et qui me rappelle chaque jour, en fait, à l'entraînement que j'ai perdu à ce moment-là. Mmh. Et qu'il fallait que je charbonne pour atteindre mes objectifs, en fait.
C'est une très belle phrase. Hein.
C'est une super phrase de Socrate.
La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où l'on est tombé.
Je reste souvent planté, moi, vous avez remarqué.
Oui, mais continuez quand même.
Non, mais ceci dit, ça se déforme un tatouage. Un coup, un mauvais coup, et pouf, une lettre change et le sens change. Ça ne vous inquiète pas? C'était la question esthétique.
Un mauvais coup. En boxe, enfin, je sais pas, je boxe pas avec Edor aux mains d'argent. Hein,
c'est... bah non, mais bon, s'il faut suturer, s'il faut... Ah non, c'est sur l'intérieur du bras.
C'est spécial, mais je me la suis pas faite sur l'arcade.
Vous pouvez vous faire mordre, hein, ça c'est déjà vu.
Il ne boxe pas avec Edor aux mains d'argent.
Ouais. Et après, il va dire qu'il travaille pas son sens de la punchline.
C'est de la punchline. Ouais. Bon,
c'est de l'impro tout en impro.
Tony, votre palmarès parle pour vous. Champion du monde amateur, champion olympique et pour l'instant aucune défaite dans vos 7 combats professionnels. Et nous n'en sommes qu'au début. Et pourtant, on vous critique au prétexte que vous ne rencontrez pas des adversaires de votre niveau. Est-ce que ce sont des critiques qui vous atteignent et comment vous les prenez?
C'est des critiques qui m'ont saoulé au départ, oui. Mais au final, non, je m'en fous. Parce que moi, je sais où je vais. Je vois très loin, j'ai des grosses ambitions. Dès que je suis passé professionnel avec Canal+, j'ai tout de suite... En fait, c'est la suite logique. J'ai été champion du monde, champion olympique. Mmh. Bah, quand je passe chez les pros, je vais être champion du monde, en fait. C'est logique.
Mais quand, par exemple, l'équipe titre après votre dernière victoire, Yoka mérite mieux, est-ce que vous le prenez à titre perso ou est-ce qu'on peut dire que, globalement, la France a un vrai problème avec ses champions? A du mal à soutenir, même quand ça gagne, quelle que soit la manière, quelle que soit...
C'est toujours compliqué en France d'afficher ton ambition. Parce que c'est pris souvent pour de l'arrogance. Mmh. Mais je connais aucun super champion, grand champion, qui n'est pas arrogant, en fait. Les mecs, si t'as pas l'intime conviction d'être le meilleur, mais t'en es persuadé, tu ne gagneras pas. Mmh. Et en France, on a trop pris... voilà, on défend trop le côté, oui, l'esprit père de Coubertin, faut participer, etc. Mmh. Et je le redis à chaque fois, cette phrase, elle a été déformée, c'est pas la vraie phrase, c'est pas l'important, c'est de participer, c'est l'important, c'est de participer à sa propre victoire. Ouais. En fait, il faut aller au bout de soi-même, et on va pas assez au bout de nous. Quand on regarde le reportage sur les Bleus à la Coupe du Monde, que moi j'ai suivi, les mecs, tu vois que depuis le départ, ils parlaient de la victoire, ils parlaient de la coupe, etc. Mmh. Ils voulaient la soulever. Mais quand tu regardes leur discours dans les médias, tu te rends compte qu'avant qu'ils battent la Belgique en demi-finale, à aucun moment, les mecs, ils ont dit qu'on veut gagner. Pourquoi tu veux pas dire que tu vas gagner, en fait? On est une des meilleures équipes au monde et on n'ose pas. On n'ose pas dire qu'on veut gagner. Quand je suis arrivé au JO, on m'a dit, ouais, Tony, voilà, quelles sont tes ambitions? J'ai dit, je viens pour gagner. Mmh. Et je trouve que c'est normal, en fait.
Le mental d'un champion. Alors, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un champion, dans votre tête, quand vous êtes dans le vestiaire, tout seul, une heure avant le match?
Pour moi, c'est le moment le plus pénible. L'attente dans les vestiaires, c'est dur parce que la pression, elle monte. Moi, en fait, je me fais un film de ma vie à chaque fois. Un film de ma vie. Tous les sacrifices que j'ai fait pour arriver là. Pour moi, je considère qu'il faut se faire mal pour mériter quelque chose. J'en ai parlé encore hier avec une athlète qui s'appelle Rougui Diallo. Et je lui ai dit que, voilà, en fait, faut se faire mal à l'entraînement, faut se faire mal dans ta vie de tous les jours, que tu fasses énormément de sacrifices pour que quand tu arrives dans les vestiaires avant ton combat ou ton championnat, t'es la dalle, en fait. Mmh. Parce que si t'as pas faim, tu réussiras pas. Vous savez, on fait un sport où, on, quand même, tu montes sur le ring avec un mec qui veut te mettre des coups. C'est violent, tu vois. Mmh. T'as rien fait, tu l'as rien fait. Donc avant ça, dans les vestiaires, t'es obligé de te mettre dans un mood, dans une bulle, une matrix où, en fait, au final, quand je sors de là, je suis un pitbull.
Ouais. Et quand vous sortez du ring, la première chose que vous faites? Ça dépend de la victoire ou pas?
Bah déjà, c'est victoire. On parle pas de...
On parle pas. Les autres n'existent pas.
On parle pas d'autre chose. Mais c'est mes proches. Ouais. Tout de suite, dès que je finis de boxer, on voit que mon visage, il change, que voilà, j'ai le sourire, je suis content, je suis soulagé, en gros. Et voilà, j'ai toujours une énorme team autour de moi qui s'est construite avec les années, et j'ai ma famille, et voilà, je veux vraiment partager ça avec eux.
Tony, moi je pourrais continuer à parler avec vous pendant des heures, parce que j'ai une milliard de questions à vous poser. Bon, nous sommes tenus par le temps. Je voudrais juste finir là-dessus. Les grands boxeurs du moment sont Anthony Joshua, le bon, Deontay Wilder, la brute, Tyson Fury, le truand, et l'outsider, Andy Ruiz. Vous êtes vous-même un pur styliste, à la fois vif et rapide, en dépit de votre poids. Quel genre d'épithète aimeriez-vous qu'on vous accole?
Je sais pas.
The new one.
The new one. Je suis un grand fan de Mohamed Ali. Du coup, ouais, pour moi, c'est Ali. Ali. Je dors Ali, je mange Ali. Mon fils s'appelle Ali. Tu vois.
C'est, très c'est bien. Bon. Eh ben, une soupe et Ali. Tony, merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. Ne bougez pas. Vous savez faire plein de choses, on a découvert. Hein. Vous savez faire pop avec les poings élégants, mais est-ce que vous savez faire ça?
Non. Pas du tout.
Est-ce que vous voulez essayer de le faire? Ah, il est pas mal. Bah oui.
Vous n'allez pas lui dire le contraire, de toute façon.
Moi, il y a une chose que je fais mieux que Tony Yaka. Bien. C'était pour lancer les pop news.
Conseil lecture du vendredi, un dictionnaire, mais pas n'importe lequel, celui des morts incongrues au cinéma, signé Lelo Jimmy Battista et intitulé « Tué par la mort ». Ainsi, à A comme abeille, vous trouverez celle de Macaulay Culkin dans My Girl, encore aujourd'hui une source de larmes inépuisables. À B comme batte de baseball, vous trouverez Joe Pesci dans Casino. À E comme extincteur, évidemment, vous trouverez Irréversible de Gaspard Noé. Ou encore à P comme pioche, on trouve Le Magnifique de Philippe de Broca et son bagagiste espion avec une pioche dans le front. Bref, Tué par la mort de Lelo Jimmy Battista, illustré par Freak City, c'est étrangement réjouissant et c'est édité chez Hachette Heroes.
Catherine est grande. Traduction un peu trop littérale pour vous annoncer l'arrivée de l'impératrice Catherine II de Russie en série, une femme de pouvoir ayant eu une liaison passionnée mais secrète avec Grigory Potemkin, qui n'était pas seulement un cuirassé mais un officier de la garde, et ce dernier va se révéler être un excellent conseiller et un homme politique de premier plan auprès de cette bonne Catherine incarnée dans cette saga en 4 épisodes par Hélène Mirren.
Something needs to change. I believe in reason. I believe in progress. And when the indomitable Russian people fight for these things, then Russia...
Your Russia. My Russia. Russia. Our Russia.
Will be
truly and eternally
great.
Et super Catherine, enfin Catherine the Great, ce sera bientôt sur Canal+.
Et alerte, mummy porn. Oups, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin si, un peu. Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam et Colin Farrell réunis par Guy Ritchie dans The Gentleman, l'histoire d'un baron de la drogue britannique qui décide de vendre son empire à des millionnaires américains.
I want you to imagine a character. Your boss, Mickey Pearson.
You're too smart to be blackmailing us, Fletcher.
Sweet Mary Jane is my vice. Your poison, on the other hand, is and always has been the destroyer of worlds.
You're out of touch, and I would like you to consider an offer.
I am not for sale.
The Gentleman de Guy Ritchie, ce sera le 5 février sur les écrans.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
Matthew McConaughey?
Non, la voix française de Sly.
Ah oui,
c'est
bien
bon.
Sûr.
Oui. Merci Charline. Avant d'accueillir Loïc Prigent pour débriefer la Fashion Week, écoutons l'artiste que vous choisissiez dans votre pop list, Tony Yoka, c'est Kerry James avec le morceau Muhammad Alix.
Ni devant les médias, ni devant le proc, ni devant les keufs, ni devant Skyrock, ni devant le banquier, ni devant les profs. Je suis resté entier, je n'ai pas baissé mon froc. J'ai brisé des portes à la force de mon talent. J'ai fait rentrer tous mes potes dans le salon. J'ai connu l'odeur de la rue en inhalant. J'ai connu la dureté du front en y allant. Tu parles de qui? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que t'es trop petit ou est-ce que je te regarde du sommet? Je t'entends parler de crimes que tu commets. Je t'ai jamais croisé dans la rue quand j'y sonnais. J'écoute ces rappeurs s'inventer des vies. Ils ne verront jamais la moitié de ce que je vis. Ne feront jamais la moitié de ce que je vis. Ne prendront jamais tous les risques que j'ai pris. J'ai toujours et plus de talent que ils reconnaissent quand ils parlent entre eux. Sans ma fierté, je serais plus riche que sans mon honnêteté, je serais plus vite que fierté, courage, honneur, noblesse. Voilà ce que souhaitent tous mes d'hôtesse. Parole donnée, égale promesse. Les vrais bonhommes s'y reconnaissent. Je suis Muhammad Ali. Ils font des singles, je fais des classiques. Vole comme un papillon, pique comme une abeille.
Pique comme une abeille, pique comme une abeille.
Lequel de vous prétend éteindre le soleil?
Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille.
Ni devant le dollar, ni devant l'ennemi. Ni devant le pouvoir, ni devant le FMI. Jamais je ne renierai mes convictions. J'ai plus de fierté que je n'ai d'ambition. Mes fils de rentier, mes fils de bourgeois. Permettent de citer des termes et courtois. Faudrait une balle pour m'envoyer au tapis. Je suis né noir, je vois la vie en kaki. Le succès après, les miens d'abord. Ils reconnaîtront ce que j'ai fait à ma mort. On marque ce monde en fonction de son IS. Ils font des discours, je fais la CES.
comme Coluche ou Balavoine, en hélicoptère ou en bécane. J'irai jusqu'au chaos, je suis prêt à rester sur le carreau. Comme on dit chez moi, je suis paro. Je rends les coups, je ne sers pas de paro. Je partirai les pieds devant, ils voudront cracher sur ma tombe comme Boris.
20 ans de carrière, je n'ai jamais reçu de victoire de la musique. J'en ai rien à faire, je peux remplir Bercy parce que j'ai un public. Je viens de la rue, pour rentrer en guerre, j'attends pas que le gong sonne. Qu'est-ce que t'as cru? Le combat continue jusqu'à Parkinson. Je sais d'où je viens, pour qui je me bats. Trop palestinien, comme Mandela, je lâche rien. Comme nous, mon bas, je garde la tête haute, donc je prends des coups bas.
Fierté, courage, honneur, noblesse, voilà ce que souhaite toute meuf, d'hôtesse. Parole, donnée, égale, promesse, les vraies guerrières s'y reconnaissent.
Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques.
Je fais des classiques, je fais des classiques.
Vol comme un papillon, pique comme une abeille.
Pique comme une abeille, pique comme une abeille.
Lequel de vous prétend éteindre le soleil?
Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Vol comme un papillon, pique comme une abeille.
Je suis dans les cordes, je fais semblant d'être sonné.
Sonné, 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 sonné.
Ils donnent tout ce qu'ils ont en espérant me voir tomber.
Tomber, 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 hein.
Pour l'amour des miens, je ne peux pas abandonner.
Jamais, jamais, non. Jamais.
Je lâcherai rien même si tu me vois tituber.
Puis soudain je réplique, comme la veille je les pique. Sous mes gants j'ai des briques, chaque coupe les rend amnésiques. Je t'explique, je fais pas ça pour le fric, je fais pas ça pour le chiffre. Respire, je fais du rap athlétique, authentique comme ce groupe à trois lettres. La République ne digère pas ma lettre, ils préfèrent fermer les yeux sur nos manettes. C'est toujours les mêmes, je ris aux manettes. Corps diplomatique, trafic, manette. Pendant que les nôtres s'entretuent pour des barrettes. Strass, paillettes, stress, palette. Pauvre digne contre bourgeois malhonnête.
Je suis dans les cordes, je fais semblant d'être sonné.
Sonné, 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 sonné.
Ils donnent tout ce qu'ils ont en espérant me voir tomber.
Tomber, tomber, tomber.
Non. Pour l'amour des miens, je ne peux pas abandonner.
Jamais, non, jamais, non.
Je lâcherai rien même si tu me vois tituber.
Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques.
Je fais des classiques, je fais des classiques.
Vol comme un papillon, pique comme une abeille.
Pique comme une abeille, pique comme une abeille.
Lequel de vous prétend éteindre le soleil?
Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Vol comme un papillon, pique comme une abeille.
Kerry James, Muhammad Alix, extrait de l'album Muhammad Alix. Petite réaction sur ce titre, Tony? Vous, le fan de Muhammad Ali?
Un très gros titre, moi, comme j'ai dit, hein, je suis un fan incontesté de Kerry James, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est vraiment, il a à chaque fois ses paroles c'est des paroles fortes, en fait. Ouais. Ça résonne dans ma tête tout de suite et donc je peux écouter ces morceaux en boucle à chaque fois.
Et le serpent de mer de la rencontre Boubacaris dans l'octogone?
C'est pour moi, c'est quelque chose que je prends avec le sourire. Je veux dire, en France, on est trop fermé. On est beaucoup trop fermé. Regardez la rencontre entre Mayweather et McGregor. Alors, c'est pas des rappeurs, c'est deux grands sportifs.
Ouais, ouais.
Mais on l'a beaucoup critiqué ici, alors que là-bas, c'était vraiment vu comme un show de l'entertainment. En France, on est nul dans ça, en fait. On sait pas faire. C'est pour ça que là-bas, ils ont le catch. Le catch, ouais, c'est une blague, hein, ouais, sportivement parlant. Mais c'est un spectacle de ouf. Ouais. Quel petit n'a pas regardé du catch? Moi, j'étais fan de catch.
C'est une blague, c'est une blague.
Oui, c'est une blague. Mais... mais en gros, c'est pas de vrai, du vrai.
Ouais.
Mais c'est un show. Les mecs, ils font des milliers, des millions de spectateurs. Et donc, je pense qu'il faut le prendre comme ça. En fait, on aurait voulu le voir parce qu'au final, c'est marrant. Et les mecs, ils sont entraînés comme des sportifs pour de vrai, tu vois. Donc, au bout d'un moment, ils ont parlé. Même le mec qui ne les aime pas a envie de le voir parce que tu vois ce que ça va donner, quoi.
Bien, merci Tony Yoka pour ces commentaires à chaud. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, plutôt l'émission qui traite la culture de façon... je l'ai bien fait celui-là, non?
Faut enlever les gants.
Oui, faut enlever les gants. Nous sommes toujours en compagnie de Tony Yoka et vient de nous rejoindre Loïc Prigent. Bonjour.
Coucou.
Loïc.
Bonjour Loïc.
Bonjour.
Loïc, vous revenez de cette jungle qui est la Fashion Week. Dans quel état êtes-vous?
Oh là là. Je sais pas comment je fais.
Proche de l'Ohio.
Ah bah oui. Non, j'ai couru pour voir des vêtements dans tous les sens pendant 10 jours. C'était super.
Vous êtes essoufflé donc.
Je suis un peu essoufflé.
Oui.
Ouais ouais. Je sais plus où j'en suis.
Bon, et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Fashion Week?
En fait,
de
l'idée c'est de dépenser beaucoup d'argent pendant 15 minutes pour nous montrer beaucoup de vêtements qui vont rapporter. C'est la plus grande industrie en France aujourd'hui.
On parlait des défilés là.
Ça a dépassé les avions, les défilés. Et le grand truc, c'est de composer une musique spécialement pour ces 15 minutes de défilé. Est-ce qui était assez marrant, c'était que les défilés disaient autre chose que ce que disait la musique, et la musique nous disait peut-être quelque chose d'important que les défilés, enfin que les vêtements ne nous disaient pas. Et alors je vous propose d'écouter déjà ce que chez Saint-Laurent par Anthony Vaccarello. Ouais. C'était au Trocadéro en extérieur, et la musique ça donnait ça.
Il y a des requins.
Mais ça annonce que l'orgasme arrive, ou le requin.
J'entends le requin, moi.
Voilà. C'était un peu. Alors, c'est Sébastien qui a composé ça. Il travaille, je crois, avec Charlotte Gainsbourg.
Et avec Pedro Winter. Mmh. Il est de l'écurie Banger.
Voilà. Et donc, ça annonçait un peu l'arrivée d'extraterrestres. Mmh. Une musique à la fois flippante, martiale et sensuelle. À la fin, ça devenait très sensuel.
Sensuel?
Ah ouais, ouais. À la
on
fin,
peut
ça
marcher
devenait
sensuel
peu...
là-dessus.
Ah oui, c'est, ah bah, je vous confirme. Naomi qui a débarqué là-dessus, c'était.
Et les mannequins, c'était très, très bien. Un régime sensuel, vous savez, ça.
Céline, Paradis, Slimane, l'ambiance est toujours un peu concert de rock underground, avec en général une voix de fille qui vous dit qu'elle a envie qu'on fasse ça tout de suite sur le capot noir mat de la Rolls. Mm-hmm. Et alors cette fois-ci, c'était un remix du groupe Automatique d'un morceau qui s'appelle Calling It. Alors, le morceau évoluait pas trop. C'était comme ça, non-stop. C'était assez lancinant.
Je parle mal l'anglais, mais là, elle dit, faut faire ça tout de suite, là, sur le capot de la Rolls.
Mais que le capot soit noir et mat.
Fais confiance.
C'est ça qu'elle veut.
Pour marcher en faisant la gueule, c'est très bien, ça.
Ben oui. Mm-hmm. Non, et l'effet fonctionnait. À la fin, moi, j'avais envie de m'acheter un manteau en shirling rebrodé en paillettes. Hein. Ça marchait hyper bien. Et après, il y a eu aussi les musiques qui disaient que ça va pas bien. Et musique qui nous explique que la fin du monde est prévue pour août 2020.
Oui.
C'est un fait. Hein,
ah, déjà, si, si
ah oui, on a la date là. Okay, c'est le 12 août, je crois.
Okay.
Voilà, à quelle heure ça va se passer. Et donc, grosse inquiétude hein, partagée par nos amis les créateurs.
Oui.
Donc, chez Vuitton, ça donnait ça. Ça dit « It's okay to cry », c'est « okay de pleurer ». Donc c'est chanté par Sophie, c'est un morceau qui a 2 ans, mais c'était remixé par Woodkid, qui est un musicien français plutôt connu, tout ça, pour l'occasion. Sophie était là dans la salle, assis devant moi, et c'était une chiale de dingue. Gros craquage pendant les 15 minutes des défilés. C'était dur de se concentrer pour moi, entre... le craquage parce que fascination du craquage et mais voilà, mais c'était assez intense. Et ensuite la musique qui disait vraiment on va tous mourir dans d'atroces souffrances et de la bureaucratie aveugle, c'était chez Balenciaga. Ça donnait ça.
Ah oui, c'est pas joyeux.
Mais imaginez ça, je pense 15-17 minutes, hyper intense, hyper fort, un son surround de chez Surround, l'UGC à côté, c'est rien du tout. Donc c'est un groupe qui s'appelle BFRND.
C'est dur à retenir ça.
Voilà. C'est deux Français du sud de la France. Ils bossent avec Balenciaga depuis assez longtemps. Mm-hmm. C'est composé, il me semble, pour l'occasion. Et c'était vraiment, vraiment flippant. Mm-hmm.
Tony, on vous a aperçu dans un défilé, c'était chez Givenchy, je crois, il y a quelques années, avec votre épouse.
Ouais.
Si on vous demande de défiler, ça, vous réagissez comment?
Bah, tu me prends de court un peu là. Moi, je pense que je le fais.
Mettons un Jean-Paul Gaultier vous propose d'aller défiler pour lui.
Je le fais. En fait, je suis quelqu'un, je me dis, faut profiter de tout. Et le fait de boxer, d'avoir gagné les JO, etc., ça m'ouvre énormément de portes. Mmh. Et moi, je veux tout faire.
Bien, avis aux amateurs.
Tout faire et gagner.
Ouvert à toutes les propositions. Merci Loïc. Merci pour cette
bisous,
bien sûr. Mmh. Loïc Prigent, Tony Yoka, on est vendredi et comme chaque vendredi, c'est le moment pour moi d'aller chercher le grand n'importe quoi, le magnéto qui porte bien son nom, signé Alexandre Verret. Allez, j'y vais. Allez, il est où? Ah, voilà, ça y est, je l'ai. C'est bon. Allez, je le mets. Ah, c'est parti.
Et voilà, c'est lundi et là c'est bon. Et je suis gonflé à bloc.
Ah ouais, je suis super motivé.
Ils vont voir ce qu'ils vont voir au boulot. Ah ouais, je vais tout déchirer.
Ah, oh, tiens là. Ah, oh, bon sang. Eh bien, mon bon vieux Dimbo, il est vraiment temps que je t'emmène chez Speedy.
N'importe
quoi. Quand je
Over.
Et merci Alexandre Verret. Terminons ce pop-up avec un petit Nino Ferrer, tiens, le blues anti-bourgeois.
Moi j'ai pas envie de travailler, je n'aime pas les congés payés. Moi je veux des filles et de l'argent, des beaux costumes et du bon temps. Dormir le jour, courir la nuit. Oui, 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 ça c'est ma vie. Moi, les bourgeois, ça me fait frémir. Avec leur fric et leur tirelire, ils n'aiment pas mes cheveux dans le cou. Moi je les emmène, je m'en fous. Je ne tape leur fille et leur whisky. Ça c'est ma vie. Une fille qui me plaît, je me l'envoie. Que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, si elle veut pas, je lui fais une grosse tête. Quant à son Jules, c'est pas sa fête. S'il est trop fort, j'ai mes amis. Ça c'est ma vie.
Le blues anti-bourgeois dans Pop-Pop-Pop sur France Inter. C'était un morceau signé Nino Ferrer. Voilà. Merci à tous. Merci Tony Yoka. Rendez-vous avec vous le 7 décembre à l'Accor Hotel Arena pour votre combat face à Christian Hammer. Nous y serons. Combat diffusé en direct sur Canal Plus à partir de 20h45. Merci mon cher Loïc. Dévouement lors de la Fashion Week. Merci à l'équipe de Pop-Pop-Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Tristan Gratalon, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restalt, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Lundi dans Pop-Pop-Pop, on va parler de la série Mytho, primée au festival Série Mania. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos box sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast, c'est ça que ça veut dire, et suivez-nous sur les internets 3615 pop-up-up sur Instagram et Twitter.